Ça, jamais d'après, je le connaissais, j'avais été étudiant. Et là, j'habitais dans une pension rue Saint-Benoît, donc qui est devenue la fameuse rue Saint-Benoît. Et c'était un quartier très, très calme. C'est étrange, mais c'était calme. Lorsque des fois j'allais prendre un verre de bière chez Lip, qui existait déjà, il a existé depuis longtemps, avec des copains, ou avec un copain, on traversait Saint-Germain, et quand une auto passait, tap, on se retournait en ayant l'air de penser, oh là là, encore une voiture ici, quoi. Ça m'avait frappé, ça. Je n'ai jamais fréquenté personne. Je n'aimais pas les gens, les deux magots, tout ça. Je voyais des fois, quelques rares fois, je suis allé boire un verre. Alors je voyais, il y avait Sartre avec sa copine, là, sa copinoscope, qui était là. Alors on disait qu'il allait écrire dans le bistrot, ce qui était faux, n'est-ce pas? Sartre, c'est pas un truc comme ça, aller écrire dans un bistrot, hein, sûrement pas. J'habitais dans un hôtel dont je payais la chambre pendant 3 mois parce que je chantais dans une cave où il y avait Francis Claude. Et pendant 3 mois, j'ai pas été payé. Rien. Pas un sou. Alors il fallait bien que je sais pas comment j'ai fait, pour je me faisais prêter de l'argent ou donner de l'argent un peu par mon père pour tenir le coup. Puis au bout de 3 mois, j'ai eu 15 francs. C'est 15 francs de l'époque, c'est-à-dire 1500 anciens francs, quoi, 1500. Centimes, comme on dit. Et je travaillais là. Et alors, il y a toujours un type qui venait m'écouter et qui était un type que j'aimais bien parce qu'il riait comme ça. Il s'appelait Raymond Queneau. Et alors, un jour, j'étais bien copain avec lui comme ça. Un copain ne me demandait pas d'où je venais, où j'allais. Mais enfin, je savais qui c'était, et je savais qu'il venait pour moi. Et alors, un jour, j'ai toutes les poésies qui sont dans le livre Poète à beau papier, qui n'était pas encore édité à ce moment-là, j'ai mis toutes ces poésies dans une enveloppe, et j'ai été les mettre à son nom, mais en mettant personnel, M. Raymond Queneau, dans la boîte de la NRF, qui n'était pas loin de là, n'est-ce pas? T'as une réponse, Léo? T'as eu des nouvelles? Hein? Léo, Raymond Queneau. Ce rire qui sent comme des larmes, les miennes, mes larmes à moi, qui ont fait que je n'ai rien pu faire à ce moment-là. Quoi. Voilà. Allez savoir, je sais pas. Pas de nouvelles.
J'avais dit, je vous donne 6 chansons, regarde.
Je connais un type qui va pouvoir vous les faire éditer. À Paris. Alors, mais il ne faut pas mettre mon nom, il avait dit. Parce qu'il était israélite. Je ne sais pas s'il avait peur, j'en sais rien. Alors je dis, écoutez, non, parce que moi je ne peux pas que les gens s'imaginent que j'ai écrit ça, parce qu'ils ne sauront pas qu'il y a eu des problèmes entre nous, et que je leur donne. Je ne peux pas. Puis j'ai accepté parce que ça me faisait plaisir. Il m'a dit, mais non, je m'en fous, moi ça m'est égal, etc. Vous savez, quand je suis arrivé à Paris, je chantais à la chambre, et je disais rien. La vraie pauvreté, j'ai pas connu, parce que la vraie pauvreté, c'est le type qui peut pas manger, quoi. Qui attend, qui va faire la manche dans la rue pour pouvoir s'acheter un bout de pain. J'ai toujours pu m'acheter un bout de pain. Pas plus, hein. Avec un petit bout de saucisson, parce que j'ai horreur du jambon. Et pendant longtemps, j'avais des problèmes, quoi. Et quand j'avais un petit cachet, alors ça, je me débrouillais bien. Mais il y a quelque chose qui a fait que tout a changé pour moi. Tous les soirs, pendant longtemps, je me demandais, en m'endormant, est-ce que demain je pourrais m'acheter mon paquet de cigarettes? J'ai toujours pu m'acheter un paquet de cigarettes. Le lendemain, j'ai toujours eu un paquet de cigarettes. Un jour, je suis devenu riche. La richesse, c'est pas la banque. C'est pas le truc, les actions dans les machins et tout ça. La richesse, c'est ce qui te donne la joie de vivre. Quand elle est ta joie et quand tu prétends que ta joie est ça. Un matin, je suis descendu et j'ai acheté une cartouche de cigarettes. J'ai des riches. La richesse, qu'est-ce que c'est la richesse? On va savoir. La richesse, c'est la tranquillité dans le business.
Cabaret par lui, parce que moi j'étais pas chansonnier. J'avais des copains qui gagnaient bien leur vie. parce qu'il faisait 5-6 cabarets, j'en connais.
Et ce que j'ai cherché longtemps, je restais 2-3 mois sans travailler, quoi. 2 mois, après un peu moins, après 15 jours. Et puis je remettais ça, puis j'arrêtais, puis je recommençais. Jusqu'à l'Arlequin. L'Arlequin, ça a été un truc pour moi formidable, parce que j'avais 10 000 francs, enfin, 100 francs de maintenant, à 10 000 centimes, quoi. Je sais plus en quelle année, quoi. Avant 60, bien sûr. Et je chantais tous les soirs. Et je crois qu'un jour, le type qui s'appelait Gabi, j'ai une chanson de moi qui s'appelle Gabi, d'ailleurs, dans un disque que j'ai fait il y a 3 ans, il a compris que j'allais devenir indispensable pour lui parce que je faisais beaucoup de monde. Et il m'a dit, c'est terminé. Et je suis parti. Alors, à ce moment-là, il a fallu que je cherche un autre cabaret, un autre truc. Et je n'ai pas les détails. Si je me souvenais exactement de tout ce qui m'est arrivé en ce qui concerne mon travail, c'est-à-dire en ce qui concerne mon travail de chanteur, je serais très, très angoissé même de vous le dire et de penser à ça, parce que j'ai souffert beaucoup. J'écrivais, quand j'étais à Neuilly, j'avais deux chiens, de Saint-Bernard, j'allais les promener et j'écrivais des poésies. C'est comme ça que j'ai écrit toutes les poésies qui sont dans Poète de beau papier, au bois de Boulogne, en allant promener mon chien. J'écris ça dans ma misère parce que je trouve que la misère, c'est un personnage un peu trop important dans la vie que nous menons. Hein? Moi, je chante toujours Madame la misère dans presque tous mes tours parce que il faut pas que les gens oublient que ça existe, surtout les gens qui ne sont plus dans la misère ou qui n'ont jamais été. Il faut qu'ils sachent que la misère, c'est la misère et que la misère, c'est la fin des haricots, hein, même quand ils sont bien cuits. Il faut se révolter tout le temps. Voilà, sinon on ne sert à rien, on ne sert à rien pour les autres. Voilà. S'il y a quelque chose qu'on peut faire dans la vie, c'est de prendre Madame la misère, de la sortir dans la rue et de la faire marcher avec soi. Et bras dessous, avec tout Paris, par exemple. Et aller à la Bastille aussi. Même si la Bastille, c'est une très grande connerie aussi.
Dans la rue, j'ai aimé des tas de gens comme ça qui passent. Et puis, j'aurais peut-être dû ne pas les aimer, d'ailleurs, parce que peut-être ils ne méritaient pas ma considération, peut-être. Je dis considération avec toute simplicité. Hein. Et c'est pour ça que la rue ne m'intéresse que lorsque je l'invente. Voilà. Je suis seul à dire que la poésie est dans la rue. Hein. La poésie est dans la rue. Je dis tout ça. Je gueule. La poésie est dans la rue. Sinon, c'est pas la poésie. Sinon, c'est Jeanne John Perse. Et il peut aller au machin se faire cuire un œuf. Hein. Bon. John Perse, vous avez compris, vous savez pas qui est, tant pis, n'essayez pas de savoir, c'est pas la peine. En ce qui concerne les filles dans la rue, il y a quelque chose qui m'avait troublé. Peut-être j'avais fait un peu de radio déjà, j'étais peut-être un peu connu. Et il y a des tas de filles de la rue, des commerciales, des commerçants, des commerçantes du sexe, de leur sexe, hein, pour qui j'avais beaucoup de pitié, d'ailleurs, je dois dire. Elle me draguait jamais. Ah! Alors, un jour, je me suis dit, elle ne drague jamais, pourquoi? Parce que je devais faire le même métier qu'elle. C'est-à-dire que j'allais me vendre un peu dans la rue, sans prendre l'argent comme elle, bien sûr. Et alors, j'étais un peu leur camarade. Je pense ça, hein. Ça, j'invente, bien sûr. Il n'y en a jamais une qui m'a dit, alors vous faites le même métier que moi. Non. Il y a un truc qui m'avait frappé. Parce que j'ai eu beaucoup de tendresse pour ces femmes-là, souvent. Sans les connaître, sans leur parler. Je me rappelle, j'allais manger de temps en temps en rue Saint-Denis. C'est une femme qui chantait, qui avait un petit bistrot, qui chantait, qui était sympathique. Et un soir, j'arrive, je vois devant le cabaret, devant son bistrot, une femme... comme s'il était collé contre le mur, habillé comme ça, très bien. Hein. Et c'était forcément une prostituée. Alors je suis rentré, j'aime pas dire prostituée, je préfère dire putain, c'est mieux quoi. Je suis rentré, j'ai dit à la,
à la chanteuse qui était la directrice du bistrot, je lui ai dit, je vais aller dire à la femme qui vient de manger avec moi. Et puis après, je lui paierai à manger, puis je lui donnerai son cachet comme si j'allais avec elle, mais je resterai ici. Et la femme n'avait jamais été lui dire ça. Voilà, et je n'ai jamais plus été rue Saint-Denis.
Et l'instrument que tout le monde connaît, dans la rue, dans les bistrots, etc. Pour moi, c'est un accordéoniste, un type formidable, qui s'appelait Jean Cardon. Je dis qu'il s'appelait parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps, qui était un musicien fantastique. Mec que j'ai connu. C'est un type formidable. Et je travaillais avec lui autrefois à la Villa d'Est, près des Champs-Élysées. Et un soir, il rentre chez lui. Il va dans son bistrot pour boire un verre avant d'aller dormir. Et il y a un type qui lui dit, alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, Cardon lui dit, j'accompagne Ferré. Alors, le type lui dit, ste crêpe? Oh là là. L'autre, il a été tombé immédiatement. Si tu lui as envoyé un machin dans la gueule, l'accordéon, c'est lui. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais une chance, et j'avais signé un contrat avec un type qui après est devenu un type qui vendait des draps, des lits. C'est un type qui m'avait fait signer un contrat, il avait pris 10%, c'est ce qui était normal. Un bon contrat pour moi, parce que ça se passait au Bœuf sur le Toit, où j'ai chanté pendant 2 mois, fin 46. Et là, je ne peux pas dire ça comme il faut, parce qu'il faudrait l'image de la télé. Et le patron du Bœuf sur le Toit, qui est le type qui avait créé le Bœuf sur le Toit, et qui était très gentil avec moi. Et un soir, il me dit, venez voir Léo, je vais vous présenter Cocteau et Marais. Alors moi, j'ai dit oui, moi je m'en foutais, moi, là, ce genre de truc, les gens, ils sont ce qu'ils sont, présentés, pas présentés, hein, bon. Je suis allé, alors il est venu avec moi, puis c'est là où je te dis qu'il faut l'image, je vous dis qu'il faut l'image. Je dis, excuse-moi mon cher auditeur, je te tutoie, mais t'es mon ami aussi. J'arrive, et il y avait Cocteau à gauche, sur une chaise, avec un verre de je sais pas quoi, et près de lui, Jean Marais. Alors il dit, je vous présente Léo Ferré. Alors, c'est là, il manque l'image. C'est terrible. J'ai vu Coco qui m'a regardé comme ça. Oh, je fais la voix qui ressemble aux yeux, quoi. Voilà, j'ai trouvé. Il fait, il n'a pas parlé. Mais en faisant la voix, vous allez comprendre pourquoi il m'a regardé. Oh. Puis alors, Jean Marais. Oh. Vous avez compris, hein? Et je suis parti. Moi, je l'ai connue parce qu'elle chantait. Elle chantait dans le même cabaret que moi. Et j'ai beaucoup aimé. Elle m'a beaucoup aimé. C'est elle qui a chanté toutes mes chansons. Elle chantait tout, sans me demander. Elle prenait les chansons immédiatement et les chantait très bien.
Le temps des roses rouges, c'est le temps, évidemment, des roses rouges à la Révolution, permanente, à mon avis. Le rouge, c'est la joie. C'est la guerre sainte pour chaque personnage, sainte dans la bonne expression du terme, et c'est le sang qui doit couler comme la vie, quoi. Le noir, c'est la dignité. Le noir, c'est une couleur rentrée, quoi. C'est une couleur qui parle sans rien dire. Moi, je pense qu'il y a une seule couleur, c'est le noir, l'anarchie. Cela dit, des fois, le rouge peut lui rendre visite, quoi. Hein? C'est pour ça que je dis dans une chanson, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Le temps des roses rouges, c'est une chanson révolutionnaire, plutôt qu'une chanson anarchiste. Je dois dire une chose, une petite histoire qui m'est arrivée. J'avais écrit cette chanson et je l'avais chantée. Et lorsque j'ai fait un disque pour la compagnie Le Chant du Monde, qui est une compagnie qui appartenait au Parti communiste, j'ai donné 12 chansons, et, dont Le Temps des roses rouges. Mais on avait enlevé Le Temps des roses rouges, sans rien me dire. Parce qu'ils estimaient que c'était anticommuniste, je suppose. Eh bien, s'ils estimaient que c'était anticommuniste, eh bien, ils avaient raison. Hein? Bon. J'ai appartenu au Parti communiste français pendant 5 minutes. Et c'est pas des blagues, je vais vous expliquer comment. J'avais un camarade au Champ du Monde, qui était la maison d'édition du Parti communiste, qui me disait, viens, inscris-toi au parti, ça va être formidable. On a besoin de gens comme toi, viens. Il m'avait dit ça 50 fois, enfin bref, quoi. Un jour, j'ai dit, je viens. Alors, sa cellule était au 4e arrondissement. Et alors, j'avais été au 4e arrondissement pour recevoir ma carte. Je suis arrivé le soir, il était 8-9 heures. On est descendu dans un bas-fond. Ce sont toujours des gens qui vont dans les bas-fonds, quoi. Et je me suis assis à une table où il y avait le secrétaire de la cellule, quoi, je sais pas comment ça s'appelle, les gens du parti, quoi. Voilà. Et alors je me suis assis, je parle pas très bien parce que j'aime pas parler de ça, mais enfin je vous le dis quand même, vous comprendrez. Et le chef de la cellule me donne la carte du parti avec mon nom, tout, la date, tout ça, avec le timbre, et il fallait que je donne, je sais pas moi, que je paye le timbre, le truc. Alors j'ai payé, et il m'a donné la carte du parti, j'étais donc au Parti communiste français. À ce moment-là, le chef de la cellule, qui était un maçon, probablement il faisait bien les maisons, je le suppose, mais quant au reste, il aurait mieux fait de la fermer, parce que... Il s'est mis à parler de Maurice Thorez, là-bas, il est allé voir Staline, et puis pas ci, et puis pas ça, puis voilà, puis voilà. Et alors, mon copain qui était à ma gauche, mon copain lève la main, quoi, pour pouvoir parler. Et le type lui a dit, le secrétaire lui a dit, tout à l'heure, camarade. Alors moi, je me suis levé, et j'ai dit, monsieur... Moi, c'est pas tout à l'heure, c'est tout de suite. Et j'ai rendu la carte. Et je suis pas. Espagne. La guerre. Je m'étais intéressé immédiatement à ça parce que il y a un type que je ne pouvais pas supporter. C'était le Caudillo, cette espèce de sale gueule abominable qui s'appelait Franco. Et moi, je n'allais pas en Espagne. Parce que, je sais pas, je voulais être libre. Et puis... J'avais beaucoup d'amour, sans y avoir jamais été, pour Barcelone, qui était la ville des anarchistes, enfin. Hein. Et les Espagnols exilés à Paris, je les ai connus, et ils m'avaient demandé d'aller chanter pour eux. Et c'est comme ça que j'ai fait la chanson qu'ils appellent le Flamenco de Paris. Et ça, c'était extraordinaire. Fantastique. Et... C'est une des raisons pour lesquelles j'ai épousé une Espagnole. Marie. Christy. Le travail à la commande, pour moi, c'est le meilleur travail. Parce que je suis obligé de le faire à partir du moment où j'ai accepté de le faire. Je suis obligé de le faire et les idées viennent en même temps. Ça, c'est fantastique. Même pour la musique. C'est terrible. Il y a très peu d'œuvres, je mets œuvres entre guillemets, sans avoir de la prétention, que j'ai écrites comme ça sans avoir été ailé ni sifflé par personne. Le bateau espagnol, c'est une histoire qui correspond à ce que je pense, évidemment, pour les... Je pense aux Espagnols. Et j'ai imaginé ce bateau partant, allant faire la retraite là-bas, et la guerre presque sainte en Amérique, et retournant. Et j'ai écrit ça parce que j'avais un camarade qui s'appelait Francis Claude, et qui travaillait avec Jean Chouquet. Ça, c'est drôle, ça se passe comme ça. Et un jour, j'allais à ses émissions parce qu'on me payait, on me donnait un peu d'argent, on me donnait 2000 francs, 2000 centimes à cette époque-là, par émission. Et chaque semaine, je faisais une chanson. Et une semaine, j'ai fait cette chanson en 20 minutes. dans un hôtel, le bateau espagnol, et je suis allé la chanter. C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Peut-être que je n'aurais pas écrit cette chanson si je n'avais pas eu cette émission à faire qui me faisait vivre.
Parce que quand il a vu quelque chose quelque part, le lendemain, il retourne tout de suite voir si ça y est encore. À l'endroit. À l'endroit avec les broussailles et tout ça. Alors donc, c'est qu'il a la mémoire. Et s'il a de la mémoire, c'est qu'il pense. S'il pense, il pense que là, hier, il y avait quelque chose, je vais le voir. Il y avait un petit serpent ou un petit machin, là, tout petit. Il aime bien ça. Et voilà, c'est la parole qu'il a, qui sauve l'homme, qui donne le droit à l'homme de tuer les animaux. Voilà, c'est ça, quoi. Et de faire du mal. Veste à carreaux, bien smoking, portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings, déjà boutée par les courbettes. C'est l'homme. La page de sport pour les poumons, etc. Moi, je peux dire alors que je suis pas un homme. Parce que si on lit bien la chanson, rien ne me concerne. Voilà. Que vous êtes un homme, non. Que vous êtes une plante généreuse. Magon, je l'ai connu par le dédale des affaires du Parti communiste, comme ça, parce que j'avais compris pourquoi il était communiste, d'ailleurs. Il était communiste parce que sa femme était russe, je sais pas quoi. Et un jour, j'avais été à Saint-Germain-des-Prés, au moment où est paru ce qu'il a appelé le roman inachevé. Il y a des poésies. J'ai acheté ça, je suis rentré à la maison, j'ai mis en musique les dix poésies de Ragon, dont j'ai fait le disque. Et à ce moment-là, je l'avais connu comme ça une ou deux fois, mais je ne le connaissais pas bien. Et Catherine Sauvage, qui le connaissait mieux, je lui est allé le voir pour lui dire s'il pouvait venir à la maison, m'écouter, etc. Il est venu avec Elsa, j'ai chanté les chansons, et il m'a dit oui tout de suite, il n'y a pas eu de problème. Aragon, c'était pour moi un type très simple et très, très fraternel. Un jour, je suis allé le voir chez lui, quand j'étais à Bobino. Et de chez lui à Bobino, j'allais à pied, parce que c'est pas tellement loin. J'avais été le voir pour lui parler de quelque chose. Et je suis parti pour aller à Bobino, pour faire mon tour de chant le soir. Et tout d'un coup, j'entends courir quelqu'un derrière moi, dans la rue. Alors bon, je dis, tiens, il y a un type qui court, là, sur le trottoir, quoi. Et j'ai continué à marcher, et j'ai entendu toujours le bruit de la personne qui courait de plus en plus, et puis c'était de plus en plus présent. Et c'était Aragon qui me courait après, il m'a dit, Léo, tiens, t'as oublié ton paquet de Celtic. Ah oui, c'est extraordinaire. Ça m'a touché beaucoup, ça. La chanson Les Hommes Vivent, ça n'a rien à voir avec l'homme que j'ai écrit. Est-ce ainsi que les hommes vivent, c'est une chanson perdue dans la guerre, quoi, avec les hommes qui font la guerre, et qui trouvent des femmes. Elsa, c'était, si je rencontre une femme comme ça dans la rue, qui vient vers moi, je me dis, tiens, j'ai rencontré une femme qui avait une sale gueule. C'est terrible. Dès qu'elle te parlait, c'était fini. Elle devenait adorable. Elsa, c'était, pour lui, ça a été une chose extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Et elle m'a beaucoup aimé aussi, comme ça, quoi, parce qu'elle était contente de me connaître. Elle était aussi contente que j'ai pu mettre en musique les poésies de son mari. Et je peux pas dire, lorsqu'elle est morte, je l'ai appris dans le train, où j'étais chez moi en Italie, là. J'étais pas ici, j'étais dans une maison qu'on avait louée, quand elle est arrivée, qu'on avait gardée pendant 2 ans. Et j'ai appris qu'elle était morte et ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai écrit à Louis 8 jours après parce que je l'avais pas su. Et il m'a dit, c'est la seule lettre que j'ai gardée. Le mouvement surréaliste que je n'ai pas connu parce que j'étais trop jeune, que j'ai connu après par la littérature, je peux dire que j'ai connu très bien André Breton et Aragon, Louis Aragon. Il s'est fâché avec tout le monde, tous ses amis, là, les surréalistes, il s'est fâché avec Breton. Et il disait du mal l'un de l'autre, enfin à moi, quoi. Des trucs comme ça, je lui faisais parler un peu. Aragon me disait que Breton aimait les beaux tableaux, les belles choses, et que s'il pouvait, il pouvait en soustraire un de l'endroit où il est trouvé. Puis Breton me disait d'Aragon qu'il était... Je me souviens pas, mais il disait quelque chose qui n'était pas gentil, quoi. Cela dit, ni Breton ni Aragon n'a jamais rien fauché nulle part, mais il disait, il voudrait bien, peut-être, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi, c'est... Ça m'a fait de... Quand j'ai su ça, ou quand j'y pense maintenant, ça me fait de la peine de savoir que ces deux êtres se sont fâchés pour des raisons idiotes et politiques. Voilà, c'est ça. C'est ça la politique aussi. Ça détruit l'amitié, la vraie amitié, la véritable amitié. Et Breton s'est fâché parce que Breton était comme ça. Et d'un coup, il fallait faire les choses. Cela dit, il était très généreux. Et Aragon aussi était généreux. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Puis ce communisme, ça a détruit toute la moitié du siècle, quoi. Alors ça me dégoûte. L'étrangère a été chantée par Yves Montand. J'avais entendu une fois à l'Olympia. Il a du talent, hein, Montand. Il a du talent. Il n'est pas toujours très amical, mais je ne sais pas pourquoi. À savoir, jamais comment. Il faudrait comprendre les gens pour les excuser de temps en temps de ne pas être très amicaux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et c'est difficile de juger les gens. Très difficile. Mais Montand, il a du talent quand même. Hein. Je dis même pas quand même, Montand a du talent. Hein. Quand on entend ce qu'on entend actuellement, Montand, c'est gigantesque. C'était le mot que j'aimais. Et à la chose la plus importante pour moi dans ma vie d'artiste, c'est le mot, la parole. Le mot, ça peut avoir une importance vraiment capitale et c'est indispensable. Et je parle d'autant plus facilement que d'origine latine, le français, c'est la plus belle langue du monde. Je dis ça comme ça, même si ce n'est pas vrai, je le dis. Le français, c'est la plus belle langue du monde. Un jour, j'ai demandé un jour à Sartre de m'éclairer un peu là-dessus, parce que je suis en Italie, et je me rends compte que les Italiens, à quelque chose près, à quelques mots un peu difficiles aussi, que 13e, 14e, Dante est lisible par les Italiens, par tous les Italiens. Alors, n'en parlons pas pour ceux du 15e siècle, n'est-ce pas? Et en France, tu vas te faire rhabiller si tu cherches des poètes du 13e, 14e siècle. Il faut avoir des étymologies particulières, il faut savoir des dictionnaires. Alors, j'ai dit, comment ça se fait qu'on a pris le même train, et puis, pof, la langue française est devenue autre chose, et puis, beaucoup plus évoluée, fantastique, je trouve. Il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a fait cette différence? Il m'a dit, les bourgeois. Madame. Il y a des mots qui sont grossiers, comme on dit, moi je emploie parce que un mot c'est un mot, quoi. Il est dans le dictionnaire, il veut dire quelque chose, je peux employer le mot que je veux, ce qui est compris par tout le monde. Et moi, un des plus, je m'excuse peut-être, je vais heurter certaines oreilles, alors que ces oreilles-là, ça n'a, ils n'écoutent plus. Hein. Un des plus beaux mots de la langue française, c'est le mot cul, parce que là tout le monde comprend. Ceux qui comprennent qui en parlent, c'est bien. Ceux qui comprennent qui n'en parlent pas, chez eux, j'aime donc dire que si tu y vas, ça y va aussi. Hein. Alors, pourquoi? Des fois, on cache ce mot-là. Pourquoi? Parce que ça ne se dit pas. Évidemment, on ne va pas parler tout le temps de cul n'importe où, mais le cul, c'est une image, parce que ça indique ce que ça veut dire. Quoi. Voilà. Le cul d'une femme, regarde la télévision. Partout, dans les publicités actuellement, il y a toujours, mais plus, une publicité sur un briquet, sur de l'essence, sur une voiture. On voit toujours une femme qui se... Toujours un peu les fesses, ça, comme ça. Pourquoi? Parce que c'est beau, parce que... J'aime pas ça de la part de la publicité, mais ils se servent de ça pour attirer l'œil des gens et pour que les gens achètent.
Apollinaire, j'ai été rapproché de lui parce qu'il a été à Monaco, aussi chez les frères des écoles chrétiennes de Monaco. Il était né à Monaco. Ça m'intéressait. Je me disais, ce type, et puis la photo de ce type, il ressemblait à un inspecteur des finances plutôt qu'à un poète en le regardant. Hein, c'était frappant, ça, sur les photos, quoi. J'ai été en rapport avec sa femme, qui est morte après. et qui m'a donné les autorisations qu'il fallait pour la chanson du Mallimé avec des lettres très, très gentilles, très aimables. Je trouve que Apollinaire, c'est un des grands du XXe siècle, avant Aragon, quand même. Sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Je trouve que le pont Mirabeau, je ne le connaissais pas, ça ne m'intéressait pas. Et c'était Apollinaire qui m'intéressait. Quand je suis parti de Paris, il fallait que je m'en aille parce que j'en avais marre. Je voulais aller vers la nature, vers la mer, vers la montagne, n'importe où, mais plus à Paris. J'en avais assez. Pourquoi, je ne sais pas exactement, j'ai décidé de quitter Paris. C'est parce que j'avais l'occasion d'avoir une maison loin de Paris. Et surtout, j'ai dit d'avoir une maison en Bretagne, qui est une île extraordinaire, qui est entre Saint-Malo et Cancale. Une île qui m'est... qu'on m'a appris, quoi. Que la communauté conjugale, due à cette saloperie de Napoléon Ier et de son code civil, a fait que on me conteste cette île alors qu'elle est à moi. Quoi. À moi quoi. Quand j'ai acheté cette île, j'ai été un jour payé un piano que j'avais à la maison, que j'avais loué à un marchand de piano de la rue de Lisbonne, à Paris. Je vais payer la location quand je sors de la rue. C'est de dire que j'avais pas beaucoup d'argent. C'est vous dire, je vous tutoie. Ah ben, ça va quoi. Tu m'écoutes, hein, bon. J'avais pas beaucoup d'argent, alors je suis allé payer ce piano. En sortant du marchand de piano, je regarde en face, il y avait une agence immobilière, très étroite comme ça. En la regardant, je rentre dans l'agence immobilière, et il y a un type qui se lève, il dit bonjour monsieur. Je dis bonjour monsieur, et je lui dis, est-ce que vous avez une île à vendre? Il me dit oui. Ah, combien? 30 millions. Ah, j'ai dit au revoir monsieur, bien le bonjour, et je suis parti. Il me dit, donnez-moi votre adresse parce que le type qui l'a, il a des problèmes et je sais pas, il faut de la besoin de la vendre, etc. etc. Enfin, j'ai acheté cette île, j'avais 3 millions de centimes dans mon compte en banque, il m'en fallait 17. Alors, j'ai pris les 3 millions, je me suis fait avancer 9 millions par l'éditeur de Musica qui j'ai refilé tout ce que j'avais. Et je me suis fait donner 5 millions d'avance par SACEM, c'est-à-dire la société d'auteur. J'arrivais donc à 17 millions. Et j'ai acheté l'île. J'en ai fait une société d'encouragement pour les arts, parce que je croyais que en faisant une société, étant donné que j'étais monégasque, je n'allais pas payer d'impôts, ce qui était une connerie d'ailleurs de ma part. Je connais le port du Havre, oui. Le port du Havre me plaît beaucoup parce que je sais que là, les bateaux s'en vont très loin. C'est une source de voyage, quoi, pour les bateaux, pour les grands bateaux. Et un jour, je connaissais un cinéaste qui m'avait demandé de faire la musique d'un film qui s'appelait je ne sais plus comment et qui se passait par le du Havre. Alors j'ai fait une chanson qui s'appelle « Les amoureux du Havre ». Et le type, il n'a pas usé la chanson. Il y a un musicien qui m'a piqué l'affaire. Et alors, moi, j'ai pas chanté la chanson. Je l'ai donnée à Catherine Sauvage. J'avais trouvé un hibou dans un arbre, dans une maison que j'avais louée pour aller passer le week-end, là où j'allais avec Breton, d'ailleurs. Et ce hibou, il était adorable. Alors, je l'ai amené à Paris aussi. Je le mettais sur... En face de mon piano, il y avait une sorte de... On appelle ça le mille-feu, là, le truc en marbre, comme ça. Je le mettais là. Et dans la journée, il avait les yeux ouverts, mais il dormait. Hein? Il dormait avec les yeux ouverts. Alors, il était là, comme ça. Et tout d'un coup, il y a une copine à moi qui chantait mes chansons, qui s'appelle toujours, je pense, René Lebas. Et elle arrive, elle était comme ça, de temps en temps, elle parlait. Oh là là, Léo. Oh, un hibou. Elle est allée en ouvrant les bras comme si c'était un hibou empaillé, quoi. Et à ce moment-là, lui, il a levé les ailes. Ça a été une apparition pour elle terrible. Elle a eu une peur atroce, quoi. J'ai dit, mais il est vivant. Hein, seulement, il dort. Laisse-le tranquille. Alors, ce hibou, je l'ai gardé deux ou trois mois. Parce que sa mère avait dû le foutre en l'air du nid parce qu'il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas. Et alors, j'ai fait une chanson... quelques jours après, qui s'appelait les copains de la nuit, les amis de la nuit, quoi. Et j'ai fait cette chanson pour lui, et deux jours après que je l'ai faite, il est mort. Je l'ai enterré en dessous de l'arbre d'où sa maman l'avait éjecté, n'est-ce pas? Et j'ai été, deux, trois mois après, regarder un peu ce qui se passait, ce qui était resté. J'ai cherché, j'ai trouvé une plume. Ici en Italie, j'ai créé ma maison d'édition parce que les éditeurs, il y en a marre. Vraiment marre. Vraiment marre. M-A-2-R-E. Et que les éditions, mes éditions, je les appelais Gufo del Tramonto, c'est-à-dire hibou du couchant. Voilà. En pensant à mon hibou.
Voilà. En pensant à mon hibou. Baudelaire a fait une trouvaille fantastique. Il appelait son recueil de poèmes, le premier, Les fleurs du mal. Ça, il faut savoir le faire. Les fleurs du mal. C'est extraordinaire. En 1857, deux mois après, en août 57, il y a eu un procès. Et on a extrait, on a fait partir de ce livre Six fleurs du mal. On a condamné Six fleurs. J'ai trouvé ça ignoble. Et puis, on ne les a pas retrouvés jusqu'après bien des années. Et la Cour de cassation a cassé le procès de 1857, tenez-vous bien, en 1949. Voilà. Voilà, il a dû se retourner, même pas, je ne retourne pas dans sa tombe, il n'y est pas dans sa tombe. Il est au-dessus de la tombe, Baudelaire. Il vous emmerde. La musique, ah oui, la musique me prend comme la mer. Et ça, c'est vraiment lui, et ça m'a fait plaisir qu'il ait pu écrire une poésie pareille, parce qu'il devait aimer la musique à ce moment-là. Les gens qui aimaient la musique, comme Baudelaire, où écoutaient-ils de la musique, hein? Comment faisaient-ils? Aujourd'hui, on est des princes de l'écoute. Lui, il allait quoi? Il allait où? Hein? Quelle radio il allumait? Hein? Qu'est-ce qu'il faisait, Baudelaire? Et la musique, il inventait dans ses paroles et dans son style et dans ses alexandrins. Et c'était ça, la musique de Baudelaire. Il aurait voulu connaître la musique et je pense qu'il ne l'a pas connue très bien. Parce que les gens, pour qui à ce moment-là, qui écoutaient de la musique, ben, les gens qui écoutaient Mozart ou Beethoven, ben, avant Baudelaire, bien sûr, ils allaient où? Dans des concerts organisés par des seigneurs. Hein? S'il n'y avait pas eu les seigneurs, on ne connaîtrait ni Mozart, ni Beethoven. Et Baudelaire a souffert beaucoup, je pense. Et c'est tellement loin, on ne l'a pas connu. On sait des choses, il a écrit des choses, mais il a sûrement souffert, et dans quelles conditions il a souffert. Je ne sais pas, mais il avait cette reviviscence de la poésie qu'il écrivait, et ça arrangeait tout, je crois, chez lui, quoi. Mais je ne sais pas dans quelles conditions il a souffert, mais moi, je ne voudrais pas rentrer dans sa vie de souffrance. Ça me ferait trop de peine. Alors, je ne pense jamais à ça. Les gens qui écrivent sur les poètes, qui ont vécu ci, qui ont vécu ça, et qui ont fait ci, et qui ont fait ça... un jour, j'ai lu... Il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années, un livre de Sartre sur Baudelaire, et avec certaines vérités, bien sûr, mais très méchant. C'était très méchant et il m'a convaincu à un moment. À un moment, je ne pouvais plus voir Baudelaire parce que Sartre disait que c'était ici, que c'était ça. Et puis je suis revenu à mon amour de Baudelaire. Et je n'aime pas que Sartre ait parlé comme ça d'un tel poète. Baudelaire, c'est le style des génies, ça ne peut pas s'expliquer, quoi. C'est pas, on ne peut pas dire comment il a fait, comment il n'a pas fait. Il a fait ça. Et si tu essaies de faire la même chose avec ce que tu penses, toi, actuellement, de toi, tu n'y arrives pas. Parce que tu n'as pas cette écriture, ce cœur dans la plume et dans l'encre. Où, de temps en temps, il plantait sûrement la plume dans le sang. Il écrivait en rouge. Mais ça, on n'a pas besoin de le savoir. C'est moi qui invente en ce moment-là. Mais peut-être que je n'invente pas tellement que ça. C'était peut-être vrai. Le style Baudelaire, c'est l'encre écrite. Qui est le sang écrit. Voilà. Quand j'avais 12 ans, J'avais été au cinéma à Monaco voir un film qui s'appelait Partir. Et dans ce film, il y avait un chanteur qui s'appelait Panzera, qui était un baryton de l'opéra comique, qui chantait une musique de du parc, lequel du parc avait mis une musique sur un des poèmes des Fleurs du Mal, qui s'appelle L'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur. Alors ça faisait comme ça. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble, etc. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, fantastique. Oui, je pense qu'il n'est pas pensable, c'est important ça, hein, de mettre la musique sur Baudelaire après de pareils musiciens, quoi. Et voilà. Et en 1957, sans imaginer que c'était le centenaire des Fleurs du Mal, j'étais à la maison, à mon piano, il y avait les Fleurs du Mal sur le piano, j'ai ouvert L'invitation au voyage, et alors j'ai fait une petite valse, comme ça, en chantant, mais pour m'amuser, quoi. Et tout d'un coup, je chante le second, mettons entre guillemets le couplet. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Et alors, je me dis, mais je vérifie. Je savais, mais je vérifie quand même dans mon bibliothèque du parc. Je regarde, il n'y avait pas les meubles. Et je me suis entendu dire, allez Léo, il n'avait pas mis en musique le second couplet, mettons. Allez Léo, sauvons les meubles. Et c'est comme ça que j'ai mis les poètes en musique. Je pense que sinon, j'aurais jamais touché un poète pour mettre de la musique. Je pense que la beauté est... Moi, je pense ça comme un sentiment, quoi. Inaccessible, inconnu. Et la poésie de Baudelaire, le poème La Beauté, l'indique bien, en définitive. Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre. Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Est-ce que c'est beau, ça? Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Ça, c'est fantastique, hein? Et jamais je pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études, car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles. Ah, ça, c'est... on ne peut pas dire autre chose après ça.
Mais 68 est arrivé. Alors, c'est extraordinaire, parce qu'il est arrivé en même temps que... C'est-à-dire que chez moi-même, j'ai fait un mai 68. La révolution a été faite deux fois. Chez moi, dans mon quartier de Gonzesse, et dans la rue. Le 27 mars, je suis parti. Et le 27 mars, il y a eu cette histoire de Nanterre. Et le 10 mai, je chantais à la Mutualité. Et j'avais répété avec mes copains là, à 6 heures du soir. Quand on a fini de travailler, on est allé dans un bistrot qui se trouve dans le coin. Et qu'est-ce que j'ai vu arriver? Ça, j'avais jamais regardé, ça m'a mis les larmes aux yeux immédiatement. Les élèves de l'université et leurs professeurs étaient dans la rue. Ils marchaient, ils allaient vers, allez savoir quoi, vers le bonheur, vers la tendresse républicaine ou révolutionnaire. Et il y avait des drapeaux rouges et des drapeaux noirs. Alors là, ça m'a tué. Des jeunes m'ont reconnu, ils sont venus, j'étais sur le bord du bistrot, ils m'ont demandé de venir avec eux. J'ai dit non, je chante tout à l'heure, c'est pas possible, je peux pas venir. Et dans la nuit, il y a eu cette espèce de révolution un peu dure, quoi, sans coup de feu, quoi. Et voilà, mai 68, ça a tout changé, c'est la porte ouverte. Elle est encore un peu ouverte, il faudrait la pousser un peu, hein. Allez-y un peu, poussez un peu la porte, là. On n'est plus en 68, on est en 91.
Faut pousser un peu. Allez, poussez. Poussez, poussez. Eh oui. Si vous poussez, la porte s'ouvrira. Voilà. Sans armes. Sans rien d'autre que la volonté de vous faire respecter. La Marseillaise, pour moi, c'est Marseille. C'est pour ça que j'ai fait une dans la chanson. La Marseillaise, pour moi, c'est une putain, une pute, comme je dis, et que je veux voir de temps en temps. C'est la littérature, hein, ça. Bon. Je connais une sur le vieux port qui avait des dents longues comme la fin, qui dégrafait tous les marins. C'est à Marseille qu'on peut la voir. Quand le soleil se fout en tweed et que le Mistral joue les caïdes, c'est à Marseille qu'elle traîne le soir. Mais alors, c'est là, c'est elle, quoi. C'est l'histoire de la putain. Alors, c'est là. Je lui dis, arrête un peu que je vois si tu fais le poids. Et si j'en aurai pour mon fric. Arrête un peu, dis-moi si les étoiles couchent avec toi et tu me diras combien je te dois. Et le deuxième couplet de cette chanson, ça se passe à Verdun, quoi. Bon. Et c'est l'histoire de la chanson, en définitive. C'est une chanson quand les souvenirs se foutent en prise et que le Vendès pose sa valise et que les médailles font le trottoir. Ah là 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 là. Ça me tue, ça. J'ai l'impression que c'est pas moi qui ai écrit ça. Et en définitive, on me l'a dicté comme ça, quoi, parce que j'ai tellement vécu, comme tous les Français, dans cette horreur de la guerre, de l'après-guerre, de l'avant-guerre. Et que ça s'appelle la Marseillaise, ça m'ennuie beaucoup, ça m'a toujours ennuyé. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir été ennuyé pour ça.